Le vendredi de 16h à 17h, FME Radio vous emmène au Film 20e siècle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans 24e ciel sur FMR. 24e ciel, c'est votre nouveau rendez-vous à ne surtout pas manquer le vendredi après-midi pour approcher le week-end ensemble, donc en beauté. On est heureux, super heureux de faire votre connaissance. Je suis Charles-Antoine, enchanté. Je voudrais vous présenter ceux qui partageront l'antenne avec moi dans 24e ciel. Julien.
Salut, c'est moi, c'est Julien. Comment ça va, Charles?
Ça va et toi, mon Julien?
On est là, hein. Fin de semaine, on est posé.
Et Romain.
Bonjour Charles.
Ça va Romain?
Très bien.
La semaine s'est bien passée les gars?
Super.
Oui hein. Comme une semaine hein.
Ouais oui, on est heureux de faire connaissance avec nos auditeurs pour cette grande première.
Ah ça oui, bien sûr que oui, messieurs, mesdames, bonjour.
Et on espère que vous serez nombreux.
Et ça, c'est l'enthousiasme.
Il faut.
Exactement, exactement. Alors, qu'est-ce qui vous attend cet après-midi dans 24e ciel? Julien nous parlera du drama hein, qu'il y a eu entre deux personnalités d'Internet, celui-là même qui a fait chauffer la toile, s'est remué dans les brancards entre ces deux-là, et Julien va nous donner les dernières infos sur le sujet. On parlera aussi technologia, avec un nouveau moyen d'identifier les animaux perdus et de lutter contre l'abandon. On continuera avec la séquence Le saviez-vous, une information brève et sympa, toujours bien à ressortir en société. On parlera également sport automobile avec Romain, qui nous parlera du GP Explorer. Puis on reviendra sur ce qu'il ne fallait pas louper sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, on commence avec les infos de la semaine. On commence fort hein, avec une chasse au trésor coquin qui a eu lieu à Mont-Saint-Guibert dans le Brabant wallon. C'était le samedi 18 et le dimanche 19 octobre. Il y a eu près de 2000 personnes, surtout des femmes, mais aussi des hommes, figurez-vous, qui sont venus participer des quatre coins du pays à cette chasse aux sextoys. Ils devaient creuser pour déterrer l'une des 300 boîtes mystères. Il y avait aussi des animations et des spectacles pour deux fois plus de plaisir. Il faut aussi préciser que cet événement soutenait une bonne cause, hein, comme les bénéfices étaient reversés à des associations caritatives. Là, il y a vos gestes. Je me demande, les sextoys, ils sont si chers que ça pour que 2000 personnes viennent creuser dans un champ pour les trouver plutôt que d'aller les acheter calmement?
C'est pour la bonne action, pose pas de questions.
Ouais, c'est une question qu'il faut pas que je pose.
Je sais pas. Peut-être l'occasion d'en avoir un gratuit.
Ok, ok, bah c'est plutôt ce que je me dis, quoique Julien, une piste peut-être, c'est si cher que ça?
Je pense que ça coûte assez cher quand même les sextoys,
franchement. Tu penses ou tu sais?
Je pense, voilà, je pense, j'en ai pas chez moi, c'est pour ça que ça coûte cher, j'en ai pas.
Nos auditeurs nous entendent, ne nous voient pas, moi j'ai lu dans le regard de Romain la sincérité, tu vois, l'innocence, moi je sais pas, vraisemblablement oui j'imagine, puisque peut-être sous un temps plus vieux, ils ont été creusés avec des pelles.
C'était pour quel événement caritatif, on ne s'est pas dit?
Pour des associations caritatives, visiblement
oui,
il y en a plusieurs. Voilà, mon avis, c'était coupé, coupé. Et puis donner et distribuer à ces associations.
Par contre, j'avais pas la connaissance de l'emplacement de l'événement. Je connais des gens qui habitent là-bas, je serais curieux de leur demander s'ils en ont entendu parler, s'ils en ont fait un petit tour, vraiment.
Vous avez été en campagne le week-end passé? Vous avez été faire un tour au champ?
C'est la marraine de mon papa, attention.
Ah bah, je respecte la famille, hein.
Ah non, mais ce serait drôle.
Mais c'est que pour tout le monde, finalement.
Ouais, exactement. Il y a parfois des histoires comme ça, enfin.
Mais c'est un vrai événement, en fait, parce que c'est pas juste tu vas te creuser, il y avait des...
Bah, 2000 personnes, moi j'appelle ça un vrai événement.
Bah non, mais il y avait aussi, tu disais, il y avait aussi d'autres activités et tout, ils ont fait vraiment tout un truc là-dessus, c'est
drôle. Des animations, etc. Ouais, dans les boîtes, en fait, hein, qu'on déterrait, en fait, du sol, il y avait pas un sextoy. En réalité, il y avait un numéro écrit sur un morceau de papier, et étalé dans un chapiteau pour le faire échanger contre le sextoy en question. Et donc d'autres animations, j'imagine, avec sur des scènes comme ça, un petit peu de musique, des hot dogs, des choses comme ça.
Des gens tout nus.
Voilà, probablement. Je n'y étais pas, mais c'était certainement
c'est chouette, un peu de légèreté dans ce bas monde quand même.
Ben ouais, tu sais quoi Julien, moi je suis assez d'accord avec Romain, je pense que c'est pas mal de voir les choses comme ça en fait, plutôt que de commencer à juger, à voir ça de loin, de dire écoute franchement si ça fait plaisir à certains et à certaines, enfin j'ai bien dit aussi à certains, il y avait des mecs hein, qui ont fait ça. Non, mais c'est bien.
Il y a eu beaucoup de jugement dans cette phrase.
Oui, c'est vrai.
On l'a tous ressenti.
Oui, c'est vrai. Je m'excuse. Désolé à ceux qui ont été, je m'excuse. Je pensais pas ce que j'ai dit. Donc, j'enchaîne. Donc, on continue dans le caliente, hein, messieurs. Hein. Et avec une information dont vous n'allez pas revenir. Ça s'est passé à Memphis, aux États-Unis, à Memphis dans le Tennessee. Hein. Elvis Presley, que j'adore, venait de Memphis. Il y est même décédé d'ailleurs, malheureusement. Vous savez ce qu'un loueur d'appartement sur Airbnb a envoyé à la femme d'un client qui lui avait attribué une mauvaise note après son séjour?
Aucune idée.
Absolument pas.
Mais tu vas me le dire. Un petit texto coquin, truc comme ça.
Oui, oui, pour vous le dire, je vais vous le dire. Vous n'allez pas en revenir parce que là, franchement, c'est assez chaud.
Dis-le-nous,
bien pire que ça, Romain. Franchement, bien pire que ça. Il a envoyé à la femme de son client des images de vidéosurveillance où on voit son mari avec une autre femme.
Ah, c'est sympa ça.
Et ça, c'est pas banal.
Là, ça, c'est cool.
Cette histoire a fait le buzz, hein, évidemment. Les gens ont donc comme ça débattu hein, pour savoir si cette vengeance était justifiée ou si c'était plutôt une violation bien perverse de la vie privée. Bon, personnellement, j'ai mon avis sur la question. Mais vous vengeriez si un client laissait un avis négatif que vous trouveriez mais vraiment, vraiment injustifié?
Bah, très franchement, pas à ce point. C'est quand même ruiné sa vie, j'ai envie de dire. C'est horrible.
Ouais, à mon avis, il va y avoir un avant et un après. C'est ce qu'il risque.
C'est pas pour une étoile sur 5 que je vais lui faire ça, quoi. Après voilà.
Parce que parfois c'est vrai qu'on voit pour, personnellement moi qui ai un peu travaillé un peu plus qu'un peu dans l'industrie hôtelière, c'est vrai que parfois il y a des clients qui ont la main lourde, la dent dure dans leur justement dans leur jugement, dans leur feedback, c'est-à-dire dans leur retour, etc. Parfois il y en a qui taillent quand même assez injustement, mais c'est vrai que de là à aller jusque là, là c'est vraiment la vie privée de son client quand même qui
est. C'est quand même grave. C'est quand même un peu grave.
Moi j'aurais pas fait spécialement pour un avis négatif. T'aimes pas, tu râles dans ton coin, c'est pas grave. Par contre, même si l'avis aurait été positif, juste pour faire le gros bâtard, moi j'aurais pu envoyer les vidéos de surveillance. Ouais.
Avec le regard de Romain ici, je me dis, ouais, c'est incognito, tu vois, derrière un pseudo ou quoi, c'est vraiment.
Ah, non, mais si tu tombes dessus, c'est tellement tentant d'envoyer ça à la personne comme ça, je suis désolé, mais. Moi, c'est drôle. Enfin.
Ouais, c'est
non,
pour qui,
non,
ouais,
non,
c'est
non,
cool,
non,
ouais, c'est super fun.
Non, mais genre, bah, c'est le retour, le revers de la médaille.
Ouais, mais après, il est aussi. Enfin, j'espère de quelque part que le type qui a envoyé ça, le loueur hein, d'appartements sur Airbnb, j'espère quand même qu'il a certains regrets, voire des remords, parce que c'est quand même chaud hein, de faire ça, c'est quand même pas super, super clean.
C'est bien
hein.
Quelque chose. Hein.
Mais enfin, on parlait justement d'Airbnb en réserve sur Internet pour faire une magnifique transition toute soyeuse. On parle maintenant. Technologia. Alors, et c'est une nouveauté dont les propriétaires d'animaux vont attendre impatiemment l'arrivée chez nous. Bon, c'est à Hong Kong hein, que ça se passe pour le moment. Les animaux de compagnie peuvent maintenant avoir leur propre carte d'identité officielle. Mais écoutez bien, c'est beaucoup plus sérieux et intelligent que ça en a l'air. Hein. C'est une innovation hein, qui est lancée par une start-up qui s'appelle Pet Identify Display. Elle permet de relier chaque animal à une carte dotée d'une puce NFC. Julien, une puce NFC, j'imagine, c'est... Tous les chiens, c'est une puce NFC qu'ils ont, par exemple.
Alors ça, je ne sais pas dans le domaine de l'animal, maintenant.
Toi, tu connais pas?
Ouais, je connais pas. Dans le domaine de l'animal, ça, j'en sais rien. Mais les puces NFC, c'est souvent... quand tu mets ton tel, par exemple, dessus, bah, ça va t'envoyer quelque chose sur ton tel, tu vois. T'as pas besoin de scanner ni quoi que ce soit.
Ah ouais, c'est complètement nouveau. Parce que moi...
Bah, c'est assez... Oui, c'est relativement nouveau.
Mon chien Charlie que j'embrasse, moi, je pense pas qu'il ait une puce NFC. Si j'approche mon téléphone de lui, y a rien qui va arriver sur mon écran.
Je pense pas que tu vas avoir une musique Spotify qui va se lancer, non.
Donc du coup, je pense que ouais, c'est vraiment ça est complètement nouveau, mais vraiment complètement alors. Parce que voilà, en scannant simplement cette puce avec un smartphone, on accède à toutes les informations essentielles de l'animal. Donc son nom, sa photo, ses vaccins, les coordonnées du propriétaire et celles du vétérinaire. Etc, etc. Et là, hein, où c'est brillant, c'est que ça permet à la fois de faciliter l'identification des animaux perdus et de lutter contre l'abandon. Parce que ces cartes d'identité viennent compléter la puce électronique obligatoire en offrant un moyen beaucoup plus pratique pour retrouver rapidement un animal. Et vous pensez pas que ça aura un succès dingue quand ce sera ici, parce que ça arrivera un jour ou l'autre hein, chez nous, et c'est infiniment plus pratique qu'emporter un animal recueilli chez le vétérinaire. On peut directement contacter ses propriétaires en scannant sa carte d'identité. Bah, c'est génial, non?
Ouais, moi je pense bien que ça aura un succès, même en dehors de Hong Kong. Franchement, c'est un pas en plus vers une identification de ton animal, surtout que t'en as plein qui les considèrent comme son fils. Enfin, tu vois, genre, t'as toujours ça, et du coup, ça éviterait aussi, comme tu disais, les abandons. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, c'est bien.
Ouais, pour moi, vraiment, personnellement, vraiment, je suis vraiment impatient que ça arrive chez nous. Je sais que t'aimes beaucoup les animaux, Julien, et je sais que tu en as. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ah, vous savez, moi j'adore tout ce qui est connecté. Maintenant, les animaux connectés, ça on me l'avait jamais fait.
Mais les animaux connectés, ça m'intéresse grandement. C'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Tu mets ton tel, t'as le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, c'est incroyable, c'est trop bien. Moi je prendrais s'il faut.
Ouais, deux t'es pas sûr en une quoi.
Ah, incroyable.
Mais question sécurité, tu penses franchement, toi qui t'y connais vraiment plus que bien en justement nouvelles technologies, etc., tu penses vraiment que c'est quelque chose qui pourrait vraiment se répandre et intéresser la plupart des gens?
Ce sera sûrement le cas. Maintenant, le problème c'est que si on a un chat par exemple, un chat qui se balade souvent dehors,
voilà.
Et ben en fait il se balade avec toutes tes infos. Techniquement, tu vois, si tu scannes le chat, bah le mec qui l'a scanné a ton numéro, ton adresse. Il sait que c'est ton chat, il a plus qu'à venir chez toi et te casser la gueule, quoi. Au final,
j'ai tout de suite compris que c'était à Julien qu'il fallait, sur 7 milliards d'individus, poser la question. Bah, effectivement, ça, en fait, ils
c'est
ont
super dangereux.
Ben voilà.
Dans ce cas-là, maintenant, si c'est un chien, si c'est même un perroquet, je sais pas si on met des puces à des perroquets, mais ça peut toujours être intéressant s'il se barre, tu vois.
Ah ouais, ben donc justement, faudrait faire très attention à ce moment-là si ça se répandait. Justement à ce qui pourrait se passer,
ouais,
si
faudrait
on
pas donner les données, hein, techniquement, à n'importe qui, en fait, l'accès.
Parce que ça reste tellement pratique et important pour retrouver un animal qui était perdu, ou voilà, ça pourrait vraiment être super super intéressant, mais
c'est
en même
sûr,
temps pas
sûr.
Faire double tranchant, quoi.
C'est ça, ouais. Donc faut faire attention, quoi.
Ah ben merci Julien de nous avoir ouvert les yeux là-dessus. Franchement, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose vraiment à garder en tête. On revient tout de suite, après un peu de musique, Julien nous parlera du drama qu'il y a eu entre deux personnalités d'Internet. Apparemment, ça a bien chauffé. A tout de suite sur FMR. On est de retour sur FMR, merci d'être avec nous. On écoutait la merveilleuse Kate Bush avec Running Up That Hill, et en anglais Running Up That Hill. Si vous nous rejoignez, on est très heureux de faire votre connaissance pour cette grande première de 24e ciel. Votre nouveau rendez-vous du vendredi après-midi sur FMR. On vous parlait avant la pause musicale de cette nouvelle façon d'identifier les animaux. Maintenant, il va falloir que tu nous aides à identifier cette personnalité d'Internet dont tu vas nous parler, Julien. Mais qui sont-elles ?
Eh bien, il s'est passé quelque chose sur les réseaux.
Ah bon ?
Entre deux streamers qui s'appellent Fougou et Elidia. Et en gros, bah, c'était un couple, mais qui était caché pendant 2 ans.
Ah !
Et bah en fait ils streamaient en même temps. Ils streamaient en même temps, donc ils... Voilà, c'était un couple caché. Et en fait ce vendredi 17 octobre, ça commence à remonter un petit peu en temps maintenant, bah Elidia est sortie du silence. Elle a fait un post Twitter où Fugu, son ex-copain, était représenté comme un mec toxique et violent. Donc voilà, énormément de soutien, beaucoup de collègues influenceurs d'ailleurs. Mais sans entrer dans les détails, Fugu, il a sorti sa réponse au plus vite, évidemment, il n'allait pas se laisser faire comme ça. Sauf que il avait des preuves accablantes, des screens et des enregistrements audio de la voix de son ex-copine, donc assez irréfutable en soi, où il montrait le comportement déplorable de la meuf. C'était quelque chose. Parmi toutes les preuves, il y avait deux insultes sur des influenceurs, des amis influenceurs de cette femme. Sauf que c'est cette femme qui les a insultés. Et oui, donc trahison en direct. Il y a beaucoup à dire, mais on n'est pas là pour ça, hein, évidemment. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les trois camps, il y a ceux qui croient Elidia dur comme fer, d'autres qui croient Fugu tout autant, et ceux qui écoutent les deux côtés et ne font pas de décision hâtive. Et du coup, moi j'ai une question. Dans notre époque où le féminisme et le mouvement MeToo prennent de plus en plus de place et les fausses accusations évidemment coulent à flot, vous seriez dans quel camp vous ? Vous croyez les victimes, peu importe du reste, ou vous gardez le bénéfice du doute ?
Bah, c'est important de le rappeler, hein, Julien, parce que c'est vrai que franchement c'est un sujet dont ça vaut la peine de parler, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des décisions hâtives. On entend souvent parler, c'est vrai, de certains artistes, hein, qui se sont, ou autres, hein, enfin tout du moins des personnalités connues, on va dire, qui se sont fait, mais quoi de moins, démolir leur carrière entière, vraiment du jour au lendemain. Il y en a assez peu justement qui réussissent après, hein, comme Marie Habitant, à revenir tout doucement, etc. Mais encore une fois, c'est bête à dire, mais c'est quand même à la justice de s'occuper de ça, parce qu'on n'a pas, nous, tous les éléments entre les mains pour juger des choses. On peut bêtement prendre parti comme on prendrait parti pour quelqu'un de sa famille ou d'un de ses amis, mais après justement il faut avoir toutes les toutes les preuves, tous les éléments entre les mains pour y voir plus clair.
Donc vous seriez dans le camp de ceux qui attendent. Bien d'avoir
sûr,
les deux côtés.
Bien sûr, et toi, mon Romain, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, oui, complètement. Bah, attendre. En vrai, attendre ce que l'affaire va mener, voir. Que la justice fasse son travail, et après s'y mettre, parce que le problème, c'est que maintenant, dès que tu dis un truc, c'est peut-être. Enfin, j'ai l'impression que ce petit. Ça a pris une ampleur sur les réseaux sociaux qui aurait pas dû être prise. Et non, franchement, même là, comme tu dis, c'est vrai que moi, j'avais eu connaissance du message d'Elidia qu'elle avait posté sur ses réseaux. J'avais plus. Pas vraiment vu la réponse de Fougou, mais je vois clairement qu'on peut pas se positionner parce que ça se contredit dans tous les sens, donc il faut attendre. Alors là, non pas prendre parti, mais voir ce que la justice a mis en place et voir la vérité des faits.
Si on prend effectivement la vision globale, soit tu crois les victimes, soit tu attends la réponse.
Ben évidemment, parce que ça a pris des proportions cette histoire, j'ai un petit peu entendu, je connais ni l'un ni l'autre de ces personnalités d'internet, hein, je les connais, de ces streamers, hein, parce qu'il est question de streamers là, hein, c'est ça, hein.
Ouais.
Moi j'en connais personnellement aucun des deux, mais j'ai entendu franchement que ça avait été loin dans
ils ont ruiné leur carrière quoi.
Ouais, il y a eu pas mal de rififi, hein, la guerre a été clairement ouverte entre les deux et c'était assez loin, hein, dans les insultes, dans les invectives et autres. Autre plainte, ceci, cela, mais après, ça me. N'étant pas un homme de conflit, hein. Pas du tout, ça... je ne mange pas de ce pain là, moi. Non, ça me donne pas envie de m'y pencher.
Enfin. En fait, mon Charles, le problème c'est que Elidia a mis ça publiquement, elle a mis ça au public, à la vue de tous,
et voilà.
Donc ça a ouvert le débat, ça a ouvert la session harcèlement sur Fougou. C'est ça. Fougou, il doit faire quoi ? Attendre 5 ans que la justice fasse quelque chose ou montrer des preuves et essayer de se défendre ? Se laisser défoncer ou pas ? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il fait ?
Ouais, et puis après, la mayonnaise monte, etc. Et ça prend de l'ampleur, et ça prend de l'ampleur. Et en fin de compte, c'est les deux qui seront, qui seront abîmés, quoi, qui auront des ennuis. Hein.
Ouais, je pense qu'il a préféré, en tombant, la prendre avec. Parce que elle a quand même essayé de ruiner sa carrière, et je pense qu'elle l'a fait. Donc bon. Passons à la suite.
Mais aussi, c'est à rappeler que tout ça, ça décrédibilise une vraie cause,
oui,
qui est déjà assez dure de mettre en forme.
Ça valait vraiment la peine d'être dit.
Qui est encore pas assez. La justice ne. Enfin, je sais pas comment expliquer.
On jette le discrédit souvent sur les femmes assez vite en se disant encore une qui invente des choses, quoi. C'est peut-être ça que tu.
Ouais, ça décrédibilise encore peut-être certaines qu'on a vraiment le besoin d'être aidées par la justice et qui souffrent tous les jours. Et c'est chiant, quoi.
À ce moment-là, ce serait la pire chose qui puisse arriver d'ailleurs, quoi. Ouais. Parce que la cause est une juste cause au départ et ce serait vraiment la pire des choses qu'elle soit vraiment salie et puis décrédibilisée comme ça, à force qu'on. Encore une fois, qu'on jette le discrédit sur certaines femmes, les unes après les autres, etc., qui en abuseraient plutôt que d'utiliser ça.
Petite parenthèse, justement récemment, il y a quelques jours, un youtubeur appelé Farod, qui était déjà dans de gros soucis, il a eu beaucoup de drama à l'époque, ça lui a un peu ruiné sa carrière, il l'a un peu caché, maintenant il fait ses trucs de son côté, et voilà, ça lui a bien ruiné. En fait, une femme est sortie du silence aussi, en disant que ce gars-là avait essayé de l'embrasser. Donc harcèlement sexuel, évidemment, parce que le raccourci est vite fait. Sauf que, il a expliqué par après que, oui, il avait essayé de l'embrasser, mais parce qu'ils étaient amis à une soirée et qu'il a vu qu'il y avait une ouverture et il a tenté. Sauf qu'elle a repoussé, donc elle a annulé le move. Et puis, ils ont discuté et apparemment ça avait été bien pris, donc c'est passé quoi. C'était il y a combien d'années déjà ?
7 ans, j'ai vu ça ce matin.
C'est
7
ça,
ans.
Il y a 7 ans.
7 ans et à l'époque, alors c'est pas pour la décrédibiliser, mais moi j'ai vu dans ce que. C'est vrai ou pas, je n'ai vu qu'un truc, mais à l'époque, elle était quand même réputée pour sauter sur tout ce qui bouge.
Ah oui. Bon,
eh ben.
Oui. Ça, j'ai vu. Du coup,
félicitations. Voilà. Si nous parlions, mes amis, de quelque chose qui était un peu plus, on va dire, aller se changer les idées.
Un peu plus sympa.
Avec plaisir.
Voilà, c'est ça. Redescendre un petit peu dans des sujets plus légers.
On en a besoin.
Mais, en tout cas, merci Julien. Pour,
pas de soucis, vraiment. Toujours là pour ça.
Absolument, franchement. On a appris quelque chose, au moins. On passe maintenant à Le Saviez-Vous, séquence dans laquelle on vous explique aujourd'hui la raison d'une des procédures de sécurité quand on prend l'avion. Bon, toujours bon à savoir, hein, non ?
Oui,
intéressant. Et c'est toujours le genre d'info qui est bonne à ressortir en société, comme on dit. Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on doit relever les cages des hublots au décollage et à l'atterrissage en avion ?
J'y étais pas au courant, moi j'ai même pris l'avion, donc ouais.
Eh ben, heureusement que quelqu'un y pense, non?
Eh ben, tu vas nous le dire, allez, allez.
Mais mon gars, voilà, Charles-Antoine est là. Alors, si on baisse hein, la lumière en cabine, parce que d'abord, on baisse la lumière en cabine et on vous demande de relever les caches des hublots au décollage et à l'atterrissage. C'est pour que vos pupilles soient habituées à la lumière extérieure en cas d'évacuation d'urgence. C'est donc très important.
Ah ouais, mais putain,
j'avais pensé, hein.
Ouais.
Ah mais non, vraiment, c'est intéressant. Et aussi, les toboggans hein, d'évacuation, hein, donc une fois que les portes s'ouvrent, les toboggans, bon, évidemment, si l'avion n'atterrit pas, mais amerrit. Eh oui, on a les termes, ici on a les termes au 24e ciel. Les toboggans d'évacuation sont donc aussi armés en début de vol pour être prêts en cas de problème. Bon voilà, encore quelque chose à ressortir en société et les gens n'en reviennent pas de votre culture. Messieurs, on vient tout de suite, après un peu de musique, c'est Romain qui nous parlera d'un événement sportif dont on a beaucoup, beaucoup parlé, c'est le GP Explorer. A tout de suite sur FMR. On est de retour sur FMR, merci d'être avec nous. On écoutait Blackpink avec Jump. Si vous nous rejoignez, on est très heureux de faire votre connaissance pour cette grande première de 24e ciel, votre nouveau rendez-vous du vendredi après-midi sur FMR. Alors après les avions, c'est des voitures dont on va parler maintenant. Et comme c'est Romain qui nous en parle, ce sera des voitures de course bien sûr. À toi de jouer mon Romain.
Ouais, du coup bah ça remonte un peu hein, mais début octobre il y a eu lieu la 3e édition du GP Explorer, hein, un événement réalisé par le youtubeur Squeezie qui met en scène 24 créateurs de contenu réalisant une course de F4 au circuit Bugatti au Mans, très prestigieux. Une course qui a été diffusée cette année en direct ce dimanche, en simultané sur Twitch, une plateforme de streaming, et aussi sur France 2. Alors en plus de la course, hein, les 24 pilotes engagés ont suivi tout au long de l'année des séances d'entraînement au Mans afin de découvrir et d'apprendre à rouler en F4, certains ayant même passé hein, le permis pour l'occasion. Alors cette année, le week-end du coup du GP Explorer hein, s'est déroulé comme un week-end de F1 traditionnel, avec une course sprint le samedi, une course principale le dimanche, avec respectivement une séance de qualification pour déterminer la grille de départ des deux épreuves. Lors du week-end, Karchez, un streamer espagnol, a montré sa dominance hein, directement en signant la pole et la victoire de la course sprint, sur le podium étant complété par Maxime Biaggi, qui attendait une revanche hein, lors de sa sortie de route du GP Explorer 2, et de Squeezie, l'organisateur de l'événement. Le dimanche, bah, Karchez a été une nouvelle fois imbattable hein, en décrochant la pole et en s'imposant une nouvelle fois lors de la course, devenant le troisième et dernier vainqueur hein, de l'histoire du GP Explorer, l'Espagnol ayant d'ailleurs même mené l'entièreté de la course hein, du dimanche. Pour ce dernier podium, il est accompagné une nouvelle fois de Maxime Biaggi, cette fois en troisième place, et de Catsup, réalisant une superbe deuxième place, elle qui avait malheureusement hein, abandonné le samedi lors de la course sprint. Elle devient donc la première femme à monter sur le podium d'un GP Explorer, elle qui avait annoncé d'ailleurs en amont de l'événement qu'une des six filles présentes lors de la course réussirait à aller chercher un podium au cours de cette dernière édition. Hein. Le GP Explorer, c'est également des statistiques impressionnantes avec 200 000 personnes présentes tout au long du week-end, une affluence digne d'un week-end de F1, voire plus. L'événement est retransmis également à la télé pour la première fois et a enregistré pas moins d'1,2 million de téléspectateurs sur France 2. Il a également établi un nouveau record d'audience française sur Twitch avec plus de 1,4 million de spectateurs simultanés. C'était la 3e édition, bah, Marc, voilà, comme j'ai dit précédemment, bah, la fin du GP Explorer, puisqu'il ne réorganisera plus un tel événement. Mais là, par ailleurs, après la course, a annoncé qu'une 4e édition bah, du coup ne verrait pas le jour, mais qu'il voudrait mettre au point un projet de ligue en sim racing. Des courses, alors le sim racing, c'est des courses de voitures sur simulateur à travers un jeu vidéo qui permettrait aux gagnants de ce championnat d'avoir un baquet dans le championnat de France de F4, ce projet visant à rendre le monde de la course automobile plus accessible et pour tous.
Ouais, fameux événement, hein, ce GP Explorer, hein, franchement. Romain, merci de nous éclairer là-dessus. Ah, c'est vraiment de la folie, mais c'est dingue alors qu'il ne veuille pas réorganiser ça, Squeezie, parce que ça a fonctionné, mais du tonnerre.
Ah ouais, mais c'est un coût d'investissement énorme.
Bah, il a récupéré son investissement, il a eu un retour
sur
investissement.
Non.
C'est le seul GP où il a récupéré un peu d'argent. Bah. Sur les trois.
Les deux, ouais.
Ah, c'est son troisième.
C'est son troisième.
C'est le troisième.
Troisième et dernier.
Ouais, le troisième et dernier.
Mais si c'est pour le troisième, ça a fonctionné, pourquoi le quatrième, ça ne fonctionnerait pas?
Ah, encore un peu plus. Ça fonctionnerait très bien, mais c'est juste que, en fait, le truc, c'est qu'il ramène, il réunit énormément de youtubeurs, streamers, même maintenant américains, espagnols, et ça prend énormément de temps de faire les entraînements, de les ramener tous au Mans, de faire ci, de faire ça, tu vois, donc c'est vraiment un gros boulot, vraiment, c'est énorme, et ça met en pause beaucoup de gens aussi, puisqu'ils ont d'autres projets à eux, forcément, et donc ouais, c'est pas le bon plan de refaire la quatrième pour s'arrêter sur une bonne note, en fait, finalement.
Ah ouais, c'est plutôt pour ça.
En plus, ça j'avais pas mentionné, mais c'est vrai que les entraînements, elles ont été quand même encadrées par la FFSA, qui est la Fédération Française du Sport Auto. Donc aussi, c'est un...
Oui, c'était vraiment du sérieux. Hein,
c'était du sérieux, ils ont eu ça, ils ont eu des mécanos, je sais bien, genre par exemple, SCH, il a eu un problème moteur, ils ont aussi changé un turbo.
Le rappeur SCH
faisait partie de l'événement.
Ah ouais,
et lors du tour de formation, bah, justement, il a eu un problème moteur, et bah, des équipes de mécanos étaient là tout au long du week-end, tout au long des séances, et ont su changer un turbo en 20 minutes, il a su participer à la course.
De son, ouais, il a dit, RS-toi, Nardo Greg, c'est ça. Il était avec ou pas?
C'est ça, c'est Malafak.
Malafak, exactement. Ouais. Ah ok, donc c'est vraiment pour s'arrêter sur une bonne note, un départ en beauté quoi plutôt.
C'est ça, bah, déjà sur le deuxième, enfin le premier il disait bon j'en ferai pas un deuxième, le deuxième il a fait bon je ferai pas un troisième, bon le troisième il a dit bon cette fois-ci j'arrête.
Ouais, on a compris, Squeezie, on t'embrasse et on a compris qu'il y aura probablement un quatrième dont j'espère tu nous parleras alors Romain.
Allez, je pense pas qu'il y en aura, surtout s'il se lance vraiment sur son projet de sim racing, hein, ça...
Ouais c'est quand même moins grandiose un peu le sim racing.
Bah ça permettrait par exemple à des gens comme vous et moi, peut-être passionnés d'automobile, de pouvoir décrocher une place dans le championnat de F4 de France et ça pourrait peut-être découler une carrière en monoplace. Hein. Parce que de là, tu peux peut-être graver les leçons, atteindre la F3, la F2, la F1. Et c'est tellement cher que ça te permettrait d'avoir...
Le sport fait vivre, hein,
quand même. Non, mais ça te permettrait à certaines personnes d'avoir une chance dans le sport automobile, qui est un sport extrêmement cher, même rien qu'en rallye maintenant. Même rien qu'en rallye maintenant, c'est quasiment impossible, tellement juste le coût de la participation est élevé à un week-end de rallye, en plus de la voiture, l'homologation aussi, tout ça.
Ben franchement, moi, Julien, j'ai une seule chose à dire. Merci Romain.
Mais avec plaisir.
Merci à toi.
On passe maintenant à ce qu'il ne fallait pas manquer sur les réseaux sociaux. On commence avec Rob Kenny, hein, cet Américain qui a créé la chaîne YouTube Dad How Do I, en français Papa Comment Je Fais. Alors c'est une chaîne sur laquelle il enseigne des gestes de la vie quotidienne. Mais pourquoi? Écoutez, hein, elle était destinée au départ aux enfants qui grandissent sans père pour leur donner les conseils qui leur manquent. Lui qui était abandonné par le sien au divorce de ses parents quand il avait 14 ans, il a toujours pensé qu'il avait encore beaucoup de choses à apprendre de lui, de son papa qui était parti, voilà, qu'il avait abandonné. Et donc voilà pourquoi il explique dans de courtes vidéos de moins de 10 minutes ce qu'on devrait tous savoir faire soi-même, comme par exemple... faire une cravate, déboucher une baignoire, changer une roue de voiture, réparer des toilettes ou encore se raser le visage, entre parenthèses pour les garçons, et il a déjà 5,5 millions d'abonnés sur YouTube avec cette idée simple qu'il a eue pendant le Covid d'ailleurs, et dont il explique le succès par le fait que les gens ont l'impression que quelqu'un s'intéresse à eux parce qu'il leur parle comme s'il parlait à ses propres enfants. Ce Rob Kenny. Et vous allez parfois chercher des explications comme ça sur YouTube.
Explications comment ça, des tutos
tu veux dire? Ouais, par exemple, ici en l'occurrence, hein, parmi les choses qu'il explique aux gens, il explique notamment comment faire un nœud de cravate. Vous savez que moi, c'est sur YouTube que j'ai appris à faire mes nœuds de cravate en fait.
Ouais, bah ouais, c'est super intéressant. Bah, je sais pas faire un nœud de cravate parce que j'en ai jamais eu besoin, mais je pense que si je devais le faire, je ferais sûrement ça.
Bah, non, demande-le-moi, si j'ai déjà été voir sur YouTube, ne perds pas de temps.
Putain, c'est vrai, merde.
Mais c'était pas là. C'était pas là.
Mais je suis toujours là pour vous, moi. Un gentil garçon comme moi.
Je trouve le concept génial, moi.
Super bien.
C'est vraiment super.
Outre le fait d'apprendre des gestes quotidiens, ça peut permettre à plein de gens de devenir autonomes plus facilement que d'abord avoir des conseils, savoir comment faire et une fois savoir vraiment avoir une autonomie à 100%, c'est génial.
Et dans des courtes vidéos en plus, hein, c'est-à-dire que tu vas un peu, bon vu que c'est une chaîne américaine, on va parler américain ici, straight to the point, c'est-à-dire droit au but, hein, tu vois, tu perds pas de temps, en quelques minutes tu sais comment le faire et évidemment assez techniquement quoi.
Ouais, c'est super intéressant, en plus il a une bonne niche, donc je pense que ça doit bien marcher pour lui.
C'est clair ça, hein, mais c'est un américain, hein, il n'a entre guillemets que 5,5 millions d'abonnés, parce que c'est vrai que parfois les les chaînes YouTube, ça peut avoir des...
Ça dépend des niches. Hein. Là, sa niche à lui, elle est très bonne.
Ouais, ça franchement...
Personne ne fait ça.
Non, moi je n'en connais pas d'autres, mais là franchement ça valait vraiment la peine d'en parler. Évidemment, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne le connaîtraient pas encore, quoi. On passe donc d'un homme responsable, hein, à un homme qui s'accommode plutôt bien du risque dans la vie. Écoutez-moi ça, hein. Alors il s'appelle Stefa Radulić ou Radulić. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais c'est pas le problème, et il sortait apparemment d'une réunion d'affaires, hein, où l'ambiance devait vraiment être excellente, parce que soudain, une douleur à la jambe et une vipère avait mordu. Sapristi, alors Stefa, lui, ne court pas, ne va pas aux urgences, non. Il veut aider l'animal qui se secoue dans tous les sens après l'avoir mordu, mais il n'arrive pas à le secourir, et la vipère passe de vie à trépas. Donc elle est morte, hein, et dans sa logique, hein, Stéphane, n'écoutant que son cœur, l'emmène quand même chez le vétérinaire, qui va découvrir que l'animal avait 5 grammes d'alcool dans le sang. Donc soit une dose mortelle, hein, évidemment. Et donc notre Stéphane... Ah ouais, non mais vraiment, tu peux le dire, notre Stéphane avait donc tellement bu que son sang était devenu un poison pour la vipère, alors que son venin, hein, n'a eu aucun effet sur lui. Alors sacrée santé quand même, non?
Bah voilà, les gars, buvez de l'alcool. Hein.
Voilà, tu veux survivre,
bois de l'alcool.
Ça vous sauvera d'une vipère.
C'est de la folie quand même, hein, franchement, à ce point-là. Moi, je pensais que c'était vraiment pas possible, tu vois, parce que parfois on peut dire, t'as tellement bu que ceci, que cela, j'ai plus du sang dans mes veines, c'est, je sais pas, moi, de la bière ou du vin ou quoi que ce soit. Lui, c'en était limite le cas. Son sang, c'était devenu vraiment un alcool, un digestif, quoi. Hein. Ouais, c'est ouf. Et de là tue une vipère, alors que le venin de la petite vipère n'a aucune incidence sur lui.
Putain, son sang, c'était du limoncello, l'enculé.
C'était du Bloody Mary. Tu vois, non. Bloody Mary, c'est vodka et tomate. C'était visiblement du Bloody Mary. Ah, c'est de la folie, ça, quand même. Ah, ça valait pas la peine d'être dit, messieurs.
Bonnes histoires, ça.
Ah, ouais.
Mais l'anecdote, bordel, l'anecdote qui va se faire.
Ah, ouais, mais...
J'ai tué une vipère grâce à mon sang.
Oui, là, il va avoir certainement ou son nom dans le Guinness ou quelque chose comme ça. On passe d'un vice à un autre, hein, pourquoi pas, tant qu'à faire.
Bah, si, hein.
On est bien lancé, la joie.
Mais évidemment, on finit la semaine en beauté. Alors, ce sont les conversations érotiques pour adultes qui seront disponibles à partir de décembre sur ChatGPT. Alors, juste le temps qu'un système de vérification d'âge plus complet soit mis en place. Et ce sera lancé, enfin tout du moins c'est ce que Sam Altman, hein, donc le patron d'OpenAI, a annoncé dans un message publié sur X, anciennement Twitter, que je vous lis avec plaisir, comme le reste d'ailleurs. En décembre, alors que nous déployons plus largement la vérification d'âge et dans le cadre de notre principe traiter les utilisateurs adultes comme les adultes, nous autoriserons encore davantage de contenu comme l'érotisme pour les adultes vérifiés. Alors dites l'équipe, ça vous tente de l'essayer? Juste pour voir...
Moi je vais essayer, ouais, je vais tester ça une petite soirée, là, c'est sympa, hein.
Pour y prendre goût ensuite, hein.
Je vous donnerai des retours.
Voilà, ouais, mais juste pour la science, juste
tu
pour le travail.
Tu dirais ça des abonnements, c'est pour un pote?
Je dirais tout.
Merci. Bon les gars, boulot, hein, c'est parce qu'on en parle ici, c'est
bon le travail.
Sérieusement, si je suis avec des potes, oui. Genre juste pour la blague, on est 5-6, juste on fait parler, on dit des conneries, mais tout seul, non.
Ouais, peut-être avoir, je sais pas, moi, ça peut-être donner certaines informations, des choses comme ça. Ça peut aussi être utilisé dans un but comme ça pour... pour apprendre des choses, découvrir des choses, je sais pas. Non mais, parce que pour pas...
Le but principal, c'est de se branler. Enfin, il faut se le dire.
Alors, je suis pas certain que ça va passer ici.
Il maintenant, il n'y a pas de bonnes infos à retirer de ça.
Je ne fonctionne absolument pas à ce qu'il allait dire. Je le regrette déjà, enfin, ça ne sortait pas de ma bouche. Je sais plus quoi dire, je suis tellement déstabilisé.
Il est abasourdi.
Absolument, pour mes oreilles fragiles. Mais j'imagine qu'il y aura d'autres utilisations, des utilisations, on va dire, bon, pas détournées, mais bon, c'est ce que je veux dire, parce que...
Tu veux que je répète, peut-être, hein.
Bientôt sera disponible. Ah, messieurs, en tout cas, une chose, ça a été un plaisir pour moi de partager cette grande première de 24e ciel sur FMR avec vous deux. Et on se revoit très bientôt. Et c'est la fin de 24e ciel sur FMR. Merci à vous d'avoir été avec nous. On est très impatients de vous retrouver pour un prochain numéro de votre rendez-vous du vendredi après-midi qui vous emmène au 24e ciel. Bonne soirée sur FMR, à bientôt.